tous, chers auditeurs. Il est 11h01 à la pendule de Radio Canu. C'est la rentrée de musique, etc., avec un faux départ la semaine dernière. Mais donc là, c'est bien la rentrée de musique, etc. Donc une émission musicale de Radio Canu qui a lieu en direct tous les dimanches de 11 à 12. Aujourd'hui, donc, on commence la saison musique, etc., en beauté. Je reçois l'artiste Vesperland.
Bonjour.
Bonjour. Et non, on peut dire ton, c'est ton nom d'artiste et ton, donc ton vrai nom. Les gens te connaissent, tu es très connu dans la musique. non, c'est vrai, dans le milieu musical. Donc c'est Michael Quanpa.
C'est ça.
Mais là, en fait, donc, on va te présenter un peu. Mais, donc là, tu es pour un de tes projets qui s'appelle Vesperland. Pour les habitués de l'émission, tu étais venu déjà dans l'émission, dans musique, etc., avec 30 Minutes Letters.
Tout à fait, oui.
Rappelle-moi le prénom de la chanteuse.
C'est Marie Davier.
Oui, Marie Davier, oui. Comment ai-je pu l'oublier ? Parce
qu'elle
m'a marqué. Et, non, mais c'est vrai, puis elle a beaucoup, ouais. beaucoup de talent.
C'est vrai.
Et donc, plein de. À noter aussi, tu fais beaucoup d'arrangements, tu travailles beaucoup pour d'autres artistes.
C'est vrai, j'accompagne aussi beaucoup d'autres artistes sur scène.
Il y a donc il y a notamment Frédéric Bobin.
Oui, tout à fait, Frédéric Bobin. Il y a en ce moment Claire Sabag qu'on accompagne avec Marie aussi, on est en trio, avec Marie Davier. Et il y en a même pas mal d'autres, quoi. Enfin, après, c'est un peu, comment dire, plus ou moins développé. Mais il y a aussi en ce moment un projet qui s'appelle Fafa Punk, où en fait, j'ai eu la chance de faire une tournée en Algérie avec lui l'année dernière, en fait, où je suis plutôt remplaçant du guitariste qui tourne avec eux, mais qui en ce moment a fondé une famille. Du coup, voilà, il était un peu moins dispo cet été. Mais voilà. Puis on a encore quelques dates à venir. Avec ce projet-là.
Fafa Punk, j'aime beaucoup. Ah bah. J'aimerais bien l'avoir dans l'émission. Mais...
Ah bah je lui dirais si tu veux.
Ouais, je veux bien. Non, j'ai écouté ces deux disques, c'est très bien écrit. On peut dire que c'est du hip-hop et c'est très intelligent. Et puis il apporte un truc complètement. C'est très.
C'est quelqu'un qui a une vraie générosité, qui est très humain et qui est vraiment comme ça dans la vie aussi, dans les à côté, quoi.
Mais c'est Fafa Punk, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille, mais c'est vrai que c'est perceptible dans ses disques, les deux disques qu'il a sortis. Mais c'est ton défaut de faire la pub pour les copains. Mais
bon, donc, là, on peut en parler un peu.
Oui, on peut en parler un peu.
Il mérite.
Mais donc là, Michael Quanpa, tu es là pour ton projet Vesperland. Alors Vesperland, tu as sorti trois albums sous ce nom.
Voilà, ouais,
peut-être en parler.
Alors, je pense une chose importante qu'on peut dire au sujet de Vesperland, c'est que c'est un projet où en fait je mets en musique des textes d'auteurs anglais, enfin en tout cas en langue anglaise, et plutôt sur la période du 19e siècle, parfois un peu début 20e, parfois un peu même avant. Et donc chaque album jusqu'à maintenant est consacré à un auteur en fait. Le premier qui est sorti en 2011, qui était en fait plutôt un EP, et était basé sur des textes de William Blake, qui est un auteur anglais à cheval sur le 18e et le 19e, on va dire. Le deuxième album est sur des textes d'Emily Dickinson, qui est une auteure américaine vraiment fabuleuse dans son écriture, très singulière. Enfin, c'est vraiment un personnage très, très étonnant. Et le dernier qui est sorti au printemps dernier, là... est basé sur les textes de William Butler Yeats, qui est un auteur irlandais, voilà, qui est plutôt fin 19e, début 20e.
Et en fait, on va écouter, on va un peu privilégier le dernier album avec William Yeats, mais on va écouter également aussi des titres des deux précédents projets, donc avec, où tu mets en musique les poèmes d'Emily Dickinson et de William Blake. On va faire un peu une sorte de patch,
une sorte de rétrospective,
mais enfin vous donner une idée un peu globale de ton travail. Et puis donc il y aura deux, t'as accepté, je te remercie, parce qu'il y a un son un petit peu garage à Radio Canu. Il y aura deux lives, tu vas nous faire deux chansons en direct. Bah, parfois, ouais. Peut-être qu'en réécoutant l'émission, tu diras.
On verra.
Alors, Donc oui, et puis donc il faut dire le dernier, donc c'est sur ce poème William Yeats, ce poète irlandais. On peut dire qu'il est du courant romantique, c'est ça? Enfin,
Alors,
non? Bon.
en fait, il a plusieurs facettes dans son œuvre. Et c'est vrai que la première partie de son œuvre était très inspirée par, on va dire, des courants plus anciens, et puis le folklore irlandais aussi. Il était beaucoup dans la mythologie, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, la partie de son œuvre qui m'a vraiment intéressé et qui m'a touché, je pense, c'est plutôt la partie plus tardive, où il aborde des thèmes comme le fait que la vie s'écoule et le fait de vieillir, enfin ce genre de choses-là, quoi. Et qui, je trouve, il en parle d'une manière très belle et très très humble, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment. Enfin, ça m'a vraiment sa manière de traiter ce sujet-là m'a beaucoup touché, en fait. Et c'est vrai que je suis plus sensible à cette partie de son œuvre plutôt qu'aux choses qu'il a pu écrire. C'était quelqu'un qui était très militant pour la cause irlandaise et qui a aussi beaucoup écrit là-dessus. Et c'est vrai que c'est sûrement très intéressant, mais ça m'a moins touché, cette partie-là.
À noter que l'Irlande, c'est le seul pays du Nord qui a connu la colonisation.
Ouais.
On peut s'en inspirer.
Ouais, c'est vrai.
Mais parenthèse. Et donc ouais, donc c'est plutôt après, enfin sur la dernière
c'est
période.
Une chose bizarre est que l'Irlande, en Europe en fait, et d'un point de vue économique, c'est considéré comme un pays du Sud en fait. Hein,
oui, mais c'est parce que en fait, non mais après on va pas rentrer. Enfin, oui, c'est sur un registre artistique. Mais en fait, ouais, non, j'avais parlé avec quelqu'un qui était un Algérien on parlait de ça, de colonisation. Il m'avait dit, bah t'as qu'à regarder l'Irlande, ils ont comme nous, ouais. Et c'est un pays du Nord, ouais, qui a connu c'est le seul pays du Nord, enfin on peut dire occidental, qui a connu la colonisation de la part des Anglais,
oui,
et en fait qu'on mangeait ses vers, excusez-moi l'expression, comme les autres pays, comme les pays du Sud qui ont été colonisés par l'Occident. Petite parenthèse. Et puis donc je te propose peut-être avant d'aller plus avant dans l'émission d'écouter un premier titre. Donc c'est on est sur le dernier album là, hein. Et donc c'est un texte donc de Yeats, on disait, quand j'ai un doute. Et donc c'est le morceau qui ouvre cet album, il s'appelle Words. Et donc c'est Vesperland sur Radio Canu dans Musique, etc. pour l'émission de rentrée.
I had this thought a while ago. My darling cannot understand what I have done or what would do in this blind bitter.
Vesperland sur Radio Canu dans musique, etc. Donc avec le premier morceau de son dernier disque, donc qui où il met en musique des poèmes de Yeats, William Yeats, on va dire. Et donc c'est le premier morceau, donc c'est le morceau qui ouvre l'album qui s'appelle Words. On peut évoquer peut-être ce titre.
Oui. Au niveau du texte, en fait, c'est un morceau qui traite un peu, évidemment, de l'écriture, mais sous un angle particulier, parce que lui, il était très impliqué dans l'univers du théâtre, en fait, le monde du théâtre. Et dans ce morceau, je pense qu'il évoque un peu le petit hiatus qu'il peut y avoir entre l'arrivée de la jeune garde, entre guillemets, enfin, c'est pas le mot, mais l'arrivée de jeunes écrivains, tu vois, qui vont un peu bousculer les choses et le... Comment est-ce que les gens peuvent vivre ça quand ils sont déjà réinstallés? Et du coup...
Et en fait, pour la mise en musique...
C'est un morceau qui, pour moi, est un peu particulier par rapport aux autres, parce que je l'ai vraiment... j'ai vraiment mis en musique en jouant de la basse, en fait. Donc toute la rythmique du morceau, c'est des accords joués à la basse. Et du coup, ça lui donne une sonorité un peu spécifique par rapport aux autres, quoi.
C'est pour ça, c'est pour cette raison que tu l'as choisi, en fait, pour ouvrir le disque.
Ouais. En fait, quand j'ai fait l'album, j'ai fait ce qu'il faut dire, c'est que j'ai vraiment tout fait tout seul dans cet album-là. Enfin, j'avais envie de ça depuis longtemps. Et en fait, donc j'ai procédé en faisant des sortes de prises témoins au début, quoi. Souvent c'est des guitares voix, tu vois. Et j'avais des idées un peu. J'ai fait ça en ayant des idées de comment est-ce que les morceaux seraient arrangés à la fin, tu vois. Et puis, dans celui-là, ce qui est marrant, c'est que le morceau s'est complètement transformé, quoi. Au début, j'imaginais un truc avec beaucoup de batterie, tout ça. Puis, au final, en avançant dans la production du disque et l'enregistrement et tout ça, j'ai élagué beaucoup le début du morceau. Et j'aimais assez le côté épuré du début, tu sais, avec le shaker, là, et... En fait, où la voix est assez, un peu seule avec le shaker. Et j'aimais bien ce côté-là, quoi. Et
puis même, pour ce qui concerne ce disque-ci, là, en fait, c'est assez épuré, quand même. Il n'y a pas trop... Parce qu'en fait, on peut le dire, enfin, on l'a déjà dit un petit peu, mais en fait, t'es un excellent musicien. Bon, à la limite, si tu voulais, tu pourrais mettre, je sais pas, 20 violons, enfin, je dis n'importe quoi, mais je caricature, hein.
Je comprends, ouais.
Mais tu pourrais mettre 25 guitares, faire 20... Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il y a quand même... Il y a de la substance, mais par contre, il y a quand même un côté épuré, quoi.
En tout cas, une des dimensions que j'aime mettre en avant dans ce projet-là, c'est la notion d'espace, en fait, en musique et dans le son, quoi. En fait, j'essaie de mettre une profondeur, quoi. Enfin, qu'on sente un peu un côté spacieux, quoi. Je sais pas comment dire.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai quand même tendance à mettre beaucoup d'éléments, quoi. En fait, les morceaux, il y a beaucoup de prises, mais je pense que déjà je joue aussi les instruments d'une manière personnelle et je vais vraiment vers des instruments dans lesquels que je peux entre guillemets instinctivement m'approprier, tu vois. Enfin, c'est pas forcément des instruments que je joue d'une manière académique. Et c'est vrai que il y aurait sûrement possibilité de faire des arrangements plus fournis, peut-être harmoniquement plus élaborés, tu vois. Mais dans cet album-là, j'avais vraiment envie de faire très très à l'instinct, quoi. Enfin, en tout cas, c'est un des contraintes que je m'étais donné.
Ouais, non, puis c'est perceptible. Puis ouais, on peut aussi évoquer ta voix. Donc tu as une voix qui est... Moi, je trouve superbe. Donc,
merci.
Je te l'ai dit hors antenne, non, c'est pas... une voix un peu... dark, on avait dit, caverneuse, moi j'avais noté.
Ouais, c'est
et puis en même temps, on sent hyper sensible, quoi. Très humaine, quoi.
C'est le point un peu clé, je pense, dans un projet comme celui-là, quoi. C'est vraiment... En fait, moi, j'ai l'impression que la musique pourrait être tout à fait autre, mais je pense qu'il faut vraiment que la voix soit très assumée. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et je pense que j'essaie vraiment d'accepter ma voix comme elle est, quoi. En tout cas, c'est un vrai travail... C'est vrai que j'ai pas forcément, tu vois, une technique vocale très poussée. J'ai pas beaucoup. Il y a un côté très spontané, en tout cas, que j'essaie de cultiver. Et puis, Je pense que c'est vraiment une démarche qui est importante pour moi. Enfin, dans mon parcours de musicien, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure hors antenne, mais j'ai pris énormément de cours, j'essayais vraiment de. Je pense de, à un moment donné, j'essayais vraiment de coller à des standards de son, de jeu, avec plus ou moins de succès. Hein, mais, et je crois que pour la voix, j'ai vraiment eu une démarche inverse qui est de partir de vraiment ce que j'avais de manière un peu brute comme ça. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans ce projet-là. Puis je me rends compte qu'au fil des albums, j'ai de plus en plus l'impression de trouver ça et qu'il y a encore du chemin à faire, tu vois. Et c'est quelque chose de très, comment dire, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'épanouissant, quoi, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui me donne envie de continuer de creuser et de dérouler ce fil, quoi. Enfin, vraiment.
Ouais, parce qu'en fait aussi, enfin, ouais, puis là, en tout cas, le côté, après tu dis qu'il faut, en gros, enfin, je tombe un peu aussi encore dans la caricature, qu'il n'y a pas un côté très, par exemple, cette chère Marie Davier, qui a un chant ultra technique, mais il y a quand même beaucoup d'émotions qui passent.
Ah, mais ça c'est...
Oui, mais bon, toi, c'est donc c'est moins technique, mais l'émotion, le fait est que ça, l'émotion passe quand même. Parce que Marie Davier, enfin, c'est vrai qu'elle, en fait, elle, par exemple, elle sait, enfin, au niveau vocal, je pense qu'elle sait tout faire.
Absolument.
Ouais.
Bah, elle a l'avantage d'avoir les deux aspects, quoi. C'est-à-dire que... À la fois, la voix, c'est son instrument un peu principal, je pense, et qu'elle a ce côté où elle a vraiment énormément travaillé. Et du coup, elle a une dextérité technique extraordinaire. Et en même temps, ça ne lui a pas enlevé la dimension très personnelle et très...
Ouais.
C'est ce qui est très beau, hein, mais vraiment, je trouve que c'est super, quoi, vraiment.
Mais après, donc, toi, c'est une autre démarche. Alors, peut-être moins de technique, mais par contre, je veux dire, l'émotion passe. Donc après, le pari est réussi, j'ai envie de dire. Le pari artistique est réussi. Bah,
après,
mais après, j'imagine que c'est pas toi qui va te dire à toi-même ma voix est bien ou pas bien.
Bah, disons ouais. Qu'en fait, je pense que ce truc-là, c'est très difficile, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'en fait, quand tu rentres dans un travail comme ça, il y a un moment donné où tu es obligé d'essayer d'objectiver un peu. C'est un mot que j'aime pas trop en parlant de musique, parce que finalement, l'objectivité en musique, elle n'existe pas, mais... En fait, tu vas passer par une étape, enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, où tu processes un peu les choses comment dire, mentalement, et tu vas te dire, j'essaie d'analyser des choses concrètes, par exemple, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est suffisamment juste, je ne suis pas un maniaque du tout de la justesse, d'ailleurs je pense que ça s'entend, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est à peu près en place rythmiquement, est-ce que c'est intéressant rythmiquement, même si ce n'est pas en place, tu vois, des choses comme ça, enfin, est-ce que le son est intéressant, tu vois. Et c'est un moyen de travailler dessus, en fait. Et au bout d'un moment, avec le recul, tu arrives à te dire, est-ce que c'est suffisamment beau pour correspondre à ce que j'ai envie de faire, enfin. Mais je pense qu'il y a une étape où il faut passer par un truc objectif, parce que si tu te poses tout de suite la question, est-ce que c'est beau, en fait, la réponse, quand tu es dans l'instant, tu vas te dire, c'est non, parce que le mental travaille trop et... tu peux très vite être trop dans un truc cérébral et je pense qu'il faut passer pour la voix, en tout cas, et c'est vraiment valable sûrement que pour moi, en tout cas moi j'ai besoin de passer par une étape où d'abord j'essaie de laisser sortir les choses telles qu'elles sont. Alors parfois c'est raté, puis parfois il y a des choses plus intéressantes, puis après je passe par une étape de travail vraiment on va dire purement technique entre guillemets, et après dans un troisième temps je peux valider ou invalider les choses en disant que ça correspond à ce que je veux ou pas, quoi.
Je te propose qu'on écoute un deuxième morceau donc, du dernier album.
Oui.
Donc je rappelle que donc, c'est Vesperland qui est aujourd'hui dans musique, etc. Donc on écoute là son dernier disque. Donc c'est où il a mis en musique des poèmes de William Yeats. Donc on écoute, je laisserai le soin de dire le titre après. When You Are Old.
C'est When You Are Old and Grey.
Ah oui, pardon, oui, j'avais oublié la fin. On écoute.
When you're old and gray, fools leave.
Voilà, donc c'était. Donc on est toujours. Vous écoutez toujours musique, etc. avec Vesperland. Et donc là, c'est le deuxième morceau de l'album donc consacré à la mise en musique de, des poèmes, de certains poèmes de William Yeats. Et donc c'est le morceau When You Are Old. Mais en fait, je crois que le titre est un peu plus, plus long.
Oh, c'est ça le titre, mais j'ai pris l'habitude depuis l'album sur Emily Dickinson de parfois confondre avec la première ligne les titres, parce que Emily Dickinson ne mettant pas de titre à ses poèmes, c'est tout le temps la première ligne. Donc ça m'a induit en erreur pour le reste de ma vie sur les titres des poèmes que je mets en musique, je pense.
Et donc celui-là, tu veux évoquer ce morceau
je pense que c'est un de ceux qui est vraiment dans la veine un peu du sujet, on peut dire, que j'ai abordé dans les choix des poèmes que j'ai choisis, qui est le fait de le vieillir, en fait. Et ça me touche beaucoup dans son écriture. Et celui-là, il est vraiment sur ce sujet-là, quoi. Et en fait, il a aussi quelque chose de particulier parce qu'il fait écho à des événements dans la vie de l'auteur, en fait. Et en fait, ce texte, il ressemble beaucoup à un texte de Ronsard qui s'appelle « Quand vous serez bien vieille », qui est assez connu. C'est un poème français qu'on étudie au collège. Et il y a dedans la notion du regret, tu sais, de quelque chose qui n'a pas eu lieu, quoi. Et Yeats, il a eu une histoire assez tragique, en fait, avec quelqu'un qui était un peu sa muse, en fait, qui s'appelait Maud Gonne. C'était une intellectuelle irlandaise du début du siècle. Ils avaient à peu près le même âge. Je crois qu'il était un peu plus jeune que lui. Et en fait, je pense que lui était très, très amoureux d'elle. Et il a, à un moment donné, il l'a demandé en mariage et elle a refusé, tu vois. Et du coup, c'était le début. Lui, il décrit cet événement-là comme le début des problèmes dans sa vie, quoi. Et puis, en fait, bon, par la suite, elle s'est mariée avec un type qui était un militaire irlandais, quoi. Et donc, je pense que pour lui, ça a été un drame. Et ce mariage-là était catastrophique, en plus. Donc, à un moment donné, je crois que Maud Gonne s'est séparée de ce personnage-là, en fait. Et par la suite, lui, il l'a redemandé en mariage à nouveau, en pensant que, tu vois, l'histoire avec... il s'appelait McBride, je crois, le type, pensant que ça l'avait, tu vois, un peu... Enfin, ça avait pu faire changer son point de vue, et elle a à nouveau refusé, quoi. Donc là, c'était l'échec cuisant, tu vois. Et enfin bon, c'est une histoire, et donc ça c'est... je pense qu'ils ont été ensemble et tout, mais ils se sont jamais mariés ni rien, tu vois. Elle a toujours refusé ses offres de mariage, quoi. Donc je pense que pour lui, c'était quelque chose d'assez assez dur à vivre, et ça a imprégné un peu ce morceau-là en particulier, je pense.
Ouais, puis ce que tu disais aussi, ce que tu dis, enfin moi en fait, ce que je disais un petit peu au début, donc à propos de Yeats, donc c'est qu'il a quand même, pour ceux qui le connaissent mal, parce que moi je connais beaucoup moins bien, même pas du tout, que de réputation, l'image du poète romantique irlandais, mais donc toi tu as choisi quand même des textes plutôt de la fin de sa vie, oui, voilà. Et plutôt où il allait mal, quoi, en fait.
Enfin, entre guillemets, je sais pas si c'est ça vraiment. Alors, y a un côté dark, parce que bon, moi, c'est des choses auxquelles je suis sensible, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément entre guillemets triste ou pleurnichard. Tu sais, il y a plus un côté.
Ah non, c'est pas ce que je voulais dire du tout.
Enfin, hein, je comprends, mais j'exagère un peu pour expliquer. Ouais. Mais c'est pas forcément. Triste, en fait. Moi, en tout cas, dans ma manière de le lire et de le percevoir, je trouve que c'est... Il y a une espèce de lucidité, il y a quelque chose de très beau. Puis c'est aussi que dans la forme, c'est un peu plus moderne. Et sur la fin de sa vie, il était beaucoup plus dans une écriture, on va dire, plus contemporaine. Je sais qu'il a rencontré aussi beaucoup des auteurs... du début du 20e, comme Ezra Pound, et que c'est des gens qui l'ont quand même influencé un peu, quoi. Et la langue elle-même est plus percutante, en fait, pour moi, que par rapport à ces textes de jeunesse, quoi.
Alors là, en fait, on va en écouter un troisième morceau, donc de Vesperland, de ton projet Vesperland. Donc on arrive sur en fait, ce qu'on peut appeler le disque blanc. Donc ça, par contre, c'est William Blake.
Ah voilà, ouais, c'est ça. Alors c'est, ce disque-là, donc, il est sorti en 2011. C'est le premier que j'ai fait, en fait. Et, Pour moi, il a une saveur particulière parce que je me souviens très bien de l'enregistrement de ce disque et c'était un moment vraiment un super moment pour moi, en fait, où il y avait un côté, j'ai l'impression d'être porté complètement par les événements, puis par les gens avec qui je le faisais, où on avait moi en tout cas, j'ai vécu un super truc et c'est une expérience aussi assez révélatrice de. Au début, moi, j'étais pas parti pour être chanteur, quoi. Et les gens avec qui je l'ai fait, au début, m'ont un peu lancé là-dedans et m'ont fait confiance. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense, à plein de niveaux, quoi. Et du coup, c'est un petit 6 titres qui est très acoustique, très spontané, qui s'est fait en peu de temps. Et il y a sûrement des choses qui auraient peut-être pu être faites mieux, mais en fait, à ce moment-là, moi, je pense que j'aurais pas pu faire mieux.
Ouais, puis c'est ce qu'on disait un petit peu. Je pense que c'est un peu le cas de tous les artistes. Enfin, quand ils réécoutent ils disent, on pourrait. Enfin, après, c'est aussi les caricatures, mais à la limite, en gros, il y a un morceau, à la limite, on pourrait dire, tu fais un morceau, tu fais le même morceau toute ta vie,
on pourrait retravailler dessus, mais.
Mais il faut mieux, c'est bien de.
En fait, je pense que cet album-là, je l'aime beaucoup. Enfin, pour moi, il est vraiment dans mon cœur un peu, parce que c'était vraiment un super moment, le moment de le faire. C'était presque, on peut le dire, un peu un virage dans ma vie aussi, pour moi, quoi.
Peut-être dire un mot sur William Blake, pourquoi. Qu'est-ce qui t'a
plu ? C'est un auteur plus ancien. Et ce qui m'a plu en fait chez lui, c'est la singularité de son écriture, quoi, par rapport aux auteurs de son époque. Il y a un côté, une espèce de truc très à la fois. Il y a un côté un peu vaporeux, tu vois. C'est une langue qui est difficile à comprendre. Et en même temps, dans beaucoup de ses textes, il y a un côté très simple qui font que tout de suite ça parle, c'est très beau, quoi. Et dans son œuvre, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de poèmes qui sont un peu en écho les uns par rapport aux autres. Il y a deux de ses textes les plus connus, en fait, c'est The Tiger et The Lamb, le tigre et l'agneau, quoi, qui sont dans deux recueils qu'il a écrits au début et à la fin de sa vie. Celui qu'il a écrit au début de sa vie s'appelle Songs of Innocence. Et il y a justement, on y sent vraiment la candeur, tu sais, une dimension contemplative aussi. Et c'est dans celui-là qu'il y a l'agneau là. Et l'autre qu'il a écrit plutôt à la fin de sa vie, qui s'appelle Songs of Experience. Et au contraire, il y a un peu ce que j'ai cherché dans l'œuvre de Yeats, tu vois, ce côté plus de quelqu'un qui va porter un regard lucide et sur les choses qui passent et sur le monde et tout ça. Et c'est très beau, quoi. C'est vrai que c'est un auteur classique pour les Anglais. Je pense que c'est pas quelqu'un qui va être forcément facilement mis en musique par des musiciens d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui l'ont fait. Hein, mais...
Et donc, par contre, je vais te laisser le soin de dire le titre.
C'est « I asked the thief to steal my peach ».
Voilà.
C'est donc, difficile à prononcer.
Surtout pour moi.
Donc pour moi aussi. Hein, ouais.
Mais tu le prononces quand même, je pense, un petit peu mieux que moi. Enfin, si j'avais tenté de le prononcer. Donc on écoute. Et donc ça, c'est donc un autre projet. Enfin, on passe sur un autre album de Vesperland. On écoute. Thank you. Vesperland sur Radio Canu dans musique, etc. pour l'émission de rentrée. Donc avec un autre album, qui est consacré en fait au poème William Blake.
C'est ça.
Donc tu disais une démarche très folk sur ce morceau aussi.
Bah celui-là, cet album-là, il a un côté plus immédiat. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, je pense que j'avais pas encore toute cette réflexion sur la production des disques et tout ça. Puis c'est un disque qui est plus le disque d'un moment plus petit, tu vois, plus réduit dans le temps. Les deux suivants, j'ai mis longtemps à les faire, tu vois. C'est des productions qui se sont vraiment étalées sur des longs mois. Et c'est vrai que celui-là, je me rappelle très bien, il y a eu quelques jours pour enregistrer, puis le mixage pas longtemps après, puis hop, c'était fait. Et c'est pas mal aussi, en fait, cette urgence-là. Ça amène aussi des choses créativement, je pense. Parfois, en prenant trop de temps, tu te perds un peu. Enfin, moi, j'ai cette tendance-là. Comme tu dis, ce que tu soulevais tout à l'heure, tu sais, en refaisant les choses, et tu peux perdre un peu une certaine essence créative. Et des fois, l'urgence te permet d'être obligé de la conserver, quoi. Ouais.
Là, je te propose donc d'enchaîner sur une poétesse. Donc c'est
Emily Dickinson.
Ouais, j'allais dire Mary Dickinson. C'est pour ça que je pensais à Mary David. Emily Dickinson. C'est lequel? C'est l'album noir, c'est ça?
C'est ça.
Alors, celui-là, peut-être situé cet album, à quel moment tu l'as fait et pourquoi en fait tu as choisi cette poétesse?
L'album est sorti en 2015, mais j'ai vraiment mis très longtemps à l'enregistrer, quoi. J'ai vraiment eu un coup de cœur non seulement sur les textes, mais aussi sur le personnage d'Emily Dickinson. Enfin, il y a quelque chose qui me bouleverse un peu dans sa vie. Et on peut dire que c'est une figure de la littérature américaine, parce que c'est déjà une femme au 19e siècle, ce qui n'était pas très courant là-bas à l'époque, dans la littérature. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui marque un peu une sorte de cassure avec la poésie du vieux continent, quoi. Et au niveau du style. Et ça s'explique par le fait qu'elle ait quasiment eu aucune reconnaissance de son vivant, en fait. Et elle a vraiment un truc très très libre au niveau de la forme, en fait. Surtout dans l'époque où elle écrit avec des majuscules partout au milieu des phrases, des tirets, une ponctuation très libre et tout ça. Et c'était complètement en dehors du temps au moment où elle vivait et dans l'époque où elle vivait, quoi. Et les quelques tentatives qu'elle a fait pour être publiée se sont soldées par le fait que les gens ont modifié son écriture pour essayer de faire coller au format de l'époque, ce qui lui a pas plu du tout, et du coup elle a un peu abandonné. Et elle a continué d'écrire toute sa vie durant, mais de manière très intense, parce qu'à des époques elle produisait peut-être 4 ou 5 poèmes par jour. Ça n'a pas toujours été à cette fréquence-là, mais et ça fait qu'elle a produit une œuvre qui est faramineuse, en fait, où il y a des milliers de poèmes, et c'est fabuleux, quoi. Et en fait, elle a fait ça en reliant elle-même les poèmes sous forme de ce qu'elle appelait des fascicules, en fait, fascicles en anglais. Et c'est des choses qu'elle a mis dans des caisses chez elle, qu'elle a oubliées. Puis on sait aussi qu'elle en a détruit une partie. Et, en fait, c'est des choses qui ont été retrouvées par sa famille longtemps après sa mort, et ils ne savaient pas bien quoi en faire. Puis au bout d'un moment, ils ont décidé de les montrer à quelqu'un du coin qui faisait une sorte d'autorité intellectuelle, je pense, enfin culturelle en tout cas. Et ce type-là, je crois que c'était un curé ou un truc comme ça, a dit non, mais là, il y a vraiment quelque chose, il faut en faire quelque chose. Et la reconnaissance est venue longtemps après sa mort, quoi. Et c'est quelque chose qui me touche pas mal. Enfin, je trouve que c'est... Ce que je trouve très beau là-dedans, c'est la foi qu'elle avait, enfin la confiance qu'elle avait dans sa proposition artistique intérieure, en fait, la voix qui te dit d'écrire et de faire des choses, enfin, et la motivation qu'elle a pu avoir pour travailler toute sa vie durant, c'est assez fabuleux, quoi. Je trouve ça très, très étonnant, et enfin, moi, ça m'impressionne beaucoup, quoi. Enfin, il y a sûrement d'autres exemples des cas un peu similaires, tu vois, il y a Van Gogh ou des gens comme ça, mais Enfin, en tout cas, elle, il y a ça, et les textes eux-mêmes aussi, que je trouve très touchants. Et c'est vraiment une auteure à découvrir, quoi.
Oui, une question en fait, un peu, parce que comme j'ai dit, que moi je suis pas bilingue, et on écoute la chanson très vite. Qu'est-ce que tu, enfin, c'est intéressant de lire des artistes anglais, anglophones, enfin, ou autres, hein, ou russes, ou quand on maîtrise pas la langue, et t'en penses, ou alors tu perds complètement l'essence du truc.
Ah, ça dépend, mais alors il faut accepter que. En traduisant, tu perds forcément un peu de...
Il n'y a pas la sonorité.
Voilà. Après, la traduction, elle peut aussi aider. Tu vois, moi, je les lis énormément, les traductions aussi. Hein, tu vois, mais le texte traduit, ça, c'est pas la même chose. En fait, tu perds un peu soit de la sonorité, soit du sens, soit de quelque chose entre les deux. Après, il y a des très belles traductions qui existent.
Oui, il y a des traductions qui sont plus ou moins bonnes. Ça, c'est vrai. Mais...
Bah, de Emily Dickinson, en tout cas, il y a vraiment des super traductions qui existent, mais... c'est difficile d'apprécier dans une langue étrangère, tu vois. Mais je pense que c'est bien d'essayer de faire cette démarche-là quand on parle un tout petit peu, tu vois, même sans être complètement bilingue. C'est intéressant de. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il existe beaucoup d'éditions bilingues, notamment où tu as les deux textes.
Ah oui, c'est bien ça, oui. Ouais.
C'est vrai que pour saisir l'essence poétique, c'est pas mal, en fait.
Ouais, ça, c'est très bien. Il y a des livres, j'ai des livres comme ça, c'est sur d'autres auteurs, c'est vraiment très bien, ça, je trouve.
Ouais. Ah ouais, c'est...
Mais on revient à Vesperland. Et donc, on écoute ce morceau, donc, ce texte d'Emily Dickinson que tu as mis en musique.
Ça s'appelle « Pygmy Seraph Gone Astray ».
On écoute.
I'd rather
Voilà, Vesperland sur Radio Canu dans musique, etc. Donc là, on était sur le disque, ce qu'on peut appeler le disque noir. Donc c'est, oui, donc Emily Dickinson, c'est ça?
C'est le disque sur Emily Dickinson.
Ouais. Donc voilà. Juste, on refera ta pub, mais les trois disques qu'on a écoutés, ils sont disponibles toujours
Oui.
Ouais, ouais.
En fait, ils sont accessibles par le Bandcamp de Vesperland.
Ouais.
On peut les écouter sur le Bandcamp, puis ils sont aussi sur les plateformes Deezer et tout ça, mais ils sont moins référencés dessus. Du coup, le Bandcamp, on le trouve tout de suite, on peut écouter, on peut l'acheter en format numérique éventuellement. Voilà.
Ouais, puis c'est bien parce que Bandcamp, c'est quand même mieux, parce que les artistes sont un peu mieux rémunérés sur
voilà,
Bandcamp.
Ça rémunère un peu plus directement les artistes.
Ces sites mercantiles. mais on refera on redonnera toutes les infos à la fin, avant la fin de l'émission pour ceux qui aiment ta musique. Donc là c'est l'instant. Donc tu vas faire deux chansons directes. Alors comme je t'ai dit, je préviens les auditeurs, c'est gentil parce qu'il y a un son de garage. On va essayer de faire au mieux et puis. Bah du coup, je sais pas, tu vas jouer quoi en fait hein?
Alors le premier morceau s'appelle The Lamentation of the Old Pensioner. Et c'est un des morceaux du dernier album, voilà. Et le deuxième que je jouerai après, ce sera un des morceaux qui termine l'album, qui s'appelle 2 Years Later. Voilà.
Vesperland en direct.
From the rain under a broken tree, my shell was nearest to the fire in every company that talked of love or politics. Here time transfigured me. Some conspiracy and crazy rascals rage their fears at human tyranny. My contemplations are of time that has transfigured me. Not a woman turns her face upon a broken tree, yet all the beauties that I loved are in my memory. I spit into the face of time that has transfigured me.
Le deuxième titre qui s'intitule 2 Years Later. Whatever's offered, and dream that the whole world is a friend. Suffer like your mother suffered, and be as broken. Could have warned you, but you are young, and I speak about us dawn. Could have warned you, but you are young, and I speak about
Vesperland en direct des studios de Radio Canu, donc avec deux titres en direct et extraits de son dernier disque. Donc c'est répéter peut-être les deux titres des chansons.
Alors c'était The Lamentation of the Old Pensioner et 2 Years Later.
Super.
Merci.
Là c'est vrai. Bon, on va se quitter avec un dernier morceau du dernier album, cette fois-ci en version CD. Mais avant, on va faire ta promo bien comme il faut. Alors, en fait, donc, si on veut retrouver ce qu'on a entendu aujourd'hui, C'est sous le nom de Vesperland.
Voilà, Vesperland. Et donc il y a un site web déjà qui peut permettre d'avoir pas mal d'infos. C'est vesperland.com, tout attaché, tout simplement. Après, il y a les liens dans le site, hein, mais pour ce qui est de l'écoute, on peut aller sur le Bandcamp de Vesperland.
Et c'est bien d'y aller parce que c'est là quand même que toi et puis les autres artistes sont quand même un peu mieux rémunérés.
Ben, voilà, je pense que c'est une bonne manière de découvrir les artistes quand on a envie de soutenir un peu et puis de s'intéresser à leur démarche, quoi. Et puis il y a aussi y a une page YouTube avec quelques vidéos que j'ai pu faire. Il y a des versions en live en solo, quoi, et puis il y a une version live en...